Alors, nous, on n'a pas oublié d'aller à New York, retrouver Richard Châteauvert. Hier, j'avais lancé comme ça. Je disais à Richard, vous devez être au courant de cette légende urbaine, si c'en est une, des alligators et des crocodiles abandonnés et qui foisonnent dans les égouts de New York. Et je me suis toujours posé la question, c'est-tu vrai, c'est pas vrai? Et Richard semblait ne pas être trop au courant de cette histoire-là. Bonjour, Richard Châteauvert.
Bonjour Paul, c'est vrai, j'étais pas au courant, mais j'ai appris beaucoup de choses depuis hier. Depuis 2010, on célèbre chaque année la journée annuelle des alligators dans les égouts ici à New York.
Donc c'est vrai.
Non, c'est une légende urbaine qu'on aime.
Ah, ok.
Qu'on aime exagérer.
Okay. Bon.
Alors ça, cette journée annuelle, c'est le 9 février chaque année. Mais pourquoi le 9 février? Parce qu'il y a eu une histoire absolument authentique. Le 9 février 1935, dans le quartier de East Harlem, qui était à l'époque un quartier italien. Alors, il y a des ados qui étaient en train de pelleter de la neige et ils jetaient la neige dans un trou d'homme. Et à un moment donné, le jeune Salvatore Condolucci a dit à ses copains, « Hey, il y a un alligator dans le trou d'homme. » Il dit, « Je vous jure, c'est un alligator. » Effectivement, ils ont utilisé une corde à linge comme lasso. Ils ont sorti l'alligator du trou d'homme. Il faisait à peu près 2,5 m. Et il a commencé à mordre. Alors, ils sont paniqués. Ils l'ont tué à coups de pelle.
Ben, voyons donc.
Mais c'est une histoire, Paul, qui a fait l'objet d'articles dans le New York Times et dans d'autres quotidiens le lendemain. Donc, c'est une histoire absolument authentique.
Mais c'est pas vrai. L'histoire de dire que... Parce qu'hier, Richard nous a parlé des poissons rouges ou des poissons domestiques qui sont abandonnés par leurs propriétaires dans des lacs ou dans des étendues d'eau et qui prolifèrent, mais qui grossissent et atteignent des tailles importantes.
Un pied de long. Jusqu'à 4 livres, ils peuvent vivre jusqu'à 25 ans, ces poissons rouges. Donc, c'est effectivement, Paul, c'est le même phénomène. Ce sont des gens qui ont des alligators comme animaux de compagnie et qu'à un moment donné, ils deviennent trop gros. L'alligator est dans la baignoire, il grandit, il est trop gros, il n'est plus si charmant qu'il l'était quand il était minuscule.
Hein? Il a des sauts d'humeur.
Ouais. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils les jettent et ils se retrouvent dans les égouts. Parce que vous savez qu'ici, dans l'État de New York et dans la ville de New York, c'est interdit de vendre, d'acheter ou de posséder sans permis un alligator, mais on peut poster un alligator s'il mesure moins de 50 cm. Imaginez-vous, le service postal américain permet l'envoi d'alligators de moins de 50 cm. Et ça remonte dans les années 1930, il y avait des publicités dans vous vous souvenez de Popular Mechanics, qui était un magazine très connu.
Bien sûr. Tous ceux et celles qui aimaient le côté un peu scientifique, un peu geek, comme on dit en anglais, étaient abonnés à Popular Mechanics.
Alors, il y avait des publicités dans le Popular Mechanics commander un alligator. Donc, des alligators, on en a retrouvé. Est-ce que vous m'entendez, là?
Oui, je vous entends.
Oui.
OK. Parce que je pensais qu'il y avait un délai.
Je pense qu'on... Alors, alligators... Hein, on va aller au téléphone? Bon, là... Ben oui, on va aller au téléphone avec Richard parce que je pense qu'il y a un problème.
Alors, c'est mieux au téléphone.
Ben oui, c'est mieux, là, comme ça. Bon, c'est pas
alors,
mieux...
Alors, 1937, il y a un capitaine de péniche qui trouve un alligator dans l'East River et il l'offre à la police et la police refuse. Alors, il dit, je viens de me faire un animal de compagnie. Et 6 jours plus tard, il y a un alligator de 60 cm qui a été retrouvé sur un quai de métro à Brooklyn. Écoutez, des histoires, il y en a en 1995, un alligator dans un lac du Queens. En 2001, un crocodile à Central Park. Mais encore une fois, ce sont tous des animaux de compagnie qui ont été abandonnés. Ouais. Donc, la morale, c'est que ça touche nos auditeurs. Quand vous avez un poisson rouge que vous ne voulez plus, ne le jetez pas. Il faut pas le jeter dans le fleuve Saint-Laurent, là où il faut contacter une animalerie ou faire en sorte que le poisson soit rescapé et qu'il ne se retrouve pas à grossir et à se reproduire.
Bon, ici, ici, on nous indique que c'est monnaie courante, c'est-à-dire ça survient régulièrement en Floride. En Floride, de plus en plus de terrains de golf sont visités en plein match de golf. Mm-hmm. Vous êtes en train de jouer au golf et qu'est-ce que vous voyez passer? Une famille d'alligators, des fois.
Ah, ben oui.
Directement oui, sur... oui, directement sur le terrain comme tel. Et on dit qu'il y a aussi une prolifération de gros boas et de pitons, des serpents qui ont été abandonnés par des gens qui les avaient à une époque où ils étaient beaucoup plus petits. On les a abandonnés et le climat est très favorable en Floride pour qu'ils deviennent très gros, Richard.
Complètement, parce que la Floride, c'était un lieu de marécage et ça a été développé sans tenir compte de la faune. Alors, on a complètement perturbé l'habitat des crocodiles et des alligators. C'est la raison pour laquelle on les voit partout aujourd'hui. C'est ça, la Floride.
Bon, on va changer de registre et je vais poser la question à Thérèse et Jérémy va avoir la réponse tout de suite. À quelle ville associez-vous l'origine des ailes de poulet?
Buffalo.
Ben voilà. Et Thérèse, êtes-vous d'accord?
Oui. Bon. Mais j'aurais pas répondu.
C'est pas trop compliqué, Richard, parce que ici, on connaît depuis très longtemps les ailes de poulet Buffalo.
Oui. Ah, il y a une marque ailes de poulet Buffalo.
Ben, c'est-à-dire une catégorie, n'est-ce pas?
C'est le goût Buffalo.
Le
c'est
goût. Oui, Buffalo Wings.
Ouais, parce qu'il y a beaucoup de gens aux États-Unis. J'ai l'impression qu'au Québec, je suis sûr qu'il y a beaucoup de nos auditeurs qui savaient pas que les ailes de poulet venaient de Buffalo. Alors la raison pour laquelle je vous en parle, c'est que hier c'était le championnat national de, est-ce qu'on peut dire, gavage d'ailes de poulet. Mm-hmm. Et il y a une jeune femme, Mickey Sudo, qui a mangé, écoutez bien, 246 ailes de poulet en 12 minutes.
Attendez, là, parce qu'on nous indique qu'il y a des ailes de poulet piquantes, en plus, avec des flammes sur l'emballage. D'accord, Jérémy, c'est vrai?
Oui, c'est très piquant.
Des 9-1-1, nous indique ça. François Brisson, qui est un gros consommateur aussi.
Des 9-1-1,
oui.
C'est bon.
Allez, écoute, mais Richard, 200 combien?
246 en 12 minutes. Et ce n'est pas tout. Elle a battu Joey Chestnut. Elle l'a devancé de deux ailes. Alors, Joey Chestnut, c'est celui qui remporte chaque année, ici, le 4 juillet, le concours, je dis gavage, parce qu'il n'y a pas de mot en français pour... Ça s'appelle un eating contest en anglais.
Oui.
Alors, c'est un peu ce qu'ils font. Ils se gavent de hot dog le 4 juillet. Et lui, il remporte chaque année. Et c'est séparé. Il y a les hommes et les femmes, chacun de leur côté, le 4 juillet. Mais hier, c'était unisexe et il a été battu par une femme. Et Mickey Sudo, c'est une autre championne ici à New York le 4 juillet. Sauf que cette année, elle n'a pas participé parce qu'elle était enceinte. Ça veut dire qu'elle a donné naissance à son enfant depuis le 4 juillet et elle s'est immédiatement remise à participer à des concours. Alors là, je veux... Non, écoutez, il y a des gens qui vivent de ça, hein, ils vivent de ces concours.
Ouais,
mais il faut que je raconte rapidement...
Son enfant s'est envolé.
Faut que je vous raconte rapidement l'historique des ailes de poulet. Les ailes de poulet là de Buffalo, ça existe depuis 1964 et ça a été créé à l'Anchor Bar, le bar de l'ancre, parce que le Anchor Bar commandait des coups de poulet pour faire sa sauce à spaghetti. Il y a eu une erreur à la livraison, ils ont reçu des ailes de poulet. Alors, le propriétaire, M. Frank Bellissimo, a dit à son épouse, « Es-tu capable de préparer les ailes de poulet pour qu'on puisse les récupérer? » Alors, c'est elle qui a eu l'idée de couper les ailes de poulet. Vous savez que les ailes de poulet, on les coupe en deux. Il y a le pilon et l'ailette.
Oh oui.
Et donc, elle les a coupées et elle les a servies aux clients. Et c'est ainsi que, depuis, tout le monde mange des ailes de poulet. Vous savez, le jour du Super Bowl, n'est-ce pas?
Ben, évidemment, entre autres, c'est le record. Mm. La journée record de pizza et d'ailes de poulet.
Je suis déjà allé au Anchor Bar. Je suis allé
là-bas. À Buffalo?
Ouais, je suis allé là-bas et je vous le dis, là, le menu n'est pas sur l'aile de poulet parce que le monde mange les ailes de poulet. C'est ce que tu vas mettre sur tes ailes de poulet. Fait que là, t'as différents types de sauces. C'est spectaculaire.
T'as du 9-1-1.
Ah, là, t'as plus que du 9-1-1. Là. T'as à vos risques et périls, là.
Ça, c'est complètement vrai. C'est complètement vrai. Tous les condiments et ce qu'on peut mettre sur les ailes de poulet, ça, c'est très important.
Mais Richard, en terminant, j'ai parlé en début de notre heure d'une nouvelle qui est vraie, ce n'est pas ce qu'on appelle une fake news. Un homme du Kosovo a été obligé d'être opéré d'urgence, chirurgie, parce qu'on avait retrouvé à l'intérieur de lui-même un téléphone cellulaire Nokia 3310. D'abord, premièrement, immédiatement, un vieux téléphone, un Nokia 3310. Et là, on se demande comment le téléphone s'est retrouvé là où il y a eu une chirurgie. Et Jérémy...
Oui, je sais, c'est un peu étrange, cette histoire, Paul. Mais Paul, si j'étais snob, je dirais, ben, c'est pas un iPhone, donc c'est pas grave.
Merci, Richard, et bonne semaine. Bonne semaine à New York.
Au revoir.
Cette histoire est vraie. C'est arrivé au Kosovo où l'homme a dû visiter un hôpital d'urgence se plaignant de douleurs à l'estomac, on peut imaginer. Alors, il a été opéré dans un hôpital de Pristina, la capitale du Kosovo.